Rendez-nous les biens de ce pays que vous avez volés à nos braves planteurs et à nos braves colons. Et je vous laisserai rejoindre le territoire indien que le gouvernement américain a accordé à votre peuple.
Vous dites que des êtres humains sont votre propriété?
Ce sont des esclaves!
Vous voulez la terre. Vous voulez la vie. Vous voulez des êtres humains. De quelle espèce êtes-vous donc?
De celle-là.
L'histoire de l'Amérique est une histoire coloniale, faite de conquêtes et d'exterminations, une histoire racontée par les vainqueurs, une histoire pleine de silence. L'histoire de tout l'Occident s'est construite sur des conquêtes, sur des massacres et sur des silences. Le film de Raoul Peck, ancien ministre de la Culture et cinéaste haïtien, se présente comme un long cri, 4 heures de paroles ininterrompues, pour dire et pour montrer tant la violence que le déni. 4 heures d'images et de mots pour chercher le fil rouge sang qui relierait entre eux les tueries et les asservissements qui ont forgé l'humanité à l'âge moderne. Nombre d'historiens sont venus par leurs travaux contrer les mensonges des romans nationaux dont les États-Unis et les pays d'Europe tiraient grande fierté. Raoul Peck n'est pas historien, ce qu'il bâtit, lui, c'est un contre-récit.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls.
Bonjour Raoul Peck.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Exterminer toutes ces brutes est déjà disponible sur la plateforme arte.tv, sans abonnement et pour tous. Et il sera diffusé à la télévision française demain soir en prime time sur Arte. Il a été coproduit avec les États-Unis. Il est aussi voué à être vu aux États-Unis. Vous avez choisi de vous placer au centre de ce récit. Vous dites il est un moment où il n'est plus question de neutralité. Il est question de moi, de mon regard et de mon histoire.
Alors, le projet ne s'est pas présenté comme ça au début. Je me suis appuyé sur les travaux de 3 éminents historien. Chercheurs et historiens, sociologues, anthropologues, notamment Sven Lindqvist, qui est journaliste, écrivain, qui a bourlingué tout autour du monde.
Qui est suédois.
Roxane Damba-Ortiz, qui est américaine et qui a toute sa vie non seulement milité, mais qui est une chercheuse reconnue dans son pays.
Et qui a replacé les Amérindiens au centre de l'histoire américaine, et puis surtout Howard Zinn.
Howard Zinn également, qui ils se sont connus, ont travaillé ensemble. Et puis le troisième ouvrage, qui est de Michel Rolfe Trouillot, qui est un chercheur haïtien qui a enseigné dans les universités américaines et qui aujourd'hui, justement, dont les thèses reviennent dans la discussion universitaire aux États-Unis et qui critique, justement, la manière que l'histoire a été utilisée ou que l'histoire a été incomplète puisque, pour réduire rapidement, c'est l'histoire des vaincus, des vainqueurs, pardon.
Oui, ce qui manque, justement. L'histoire manquante, c'est l'histoire des vaincus.
Il développe et il déconstruit comment l'histoire est parfois largement occultée. Toute l'histoire n'est pas dite. De quel point de vue on raconte cette histoire et qui raconte cette histoire.
C'est ça.
Donc, ce travail-là qui me sert de matrice pour le film. Donc, j'ai été quelque part à un moment donné obligé d'amener ma propre histoire. Mmh. Et c'est une manière d'abord de me permettre d'être subjectif en tant que cinéaste, parce que je suis pas là pour faire une thèse de doctorat. Je raconte un récit. Et en même temps, je me rends compte que ma vie a elle aussi traversé tous ces continents. Je suis né en Haïti, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Congo, j'ai vécu en France, je suis venu à 12 ans en France, j'ai fait toutes mes études universitaires en Allemagne. Donc ce sont tous les territoires de ce récit que je raconte.
Et vous êtes noir.
Et je suis noir, bien entendu, même si ce n'est pas la première chose que je me dis en me réveillant le matin.
Non, mais je le dis aux auditeurs qui n'entendent que votre voix et qui ne voient pas votre visage. On parle de vous, cinéaste, on parle du récit des vainqueurs. Et vous parlez, au fond, de cette immense matrice cinématographique, matrice de nos imaginaires. Et vous racontez comment le cinéma américain a réécrit l'histoire de l'Amérique.
Bien entendu, et nous avons tous été quelque part des victimes, y compris les Européens. L'histoire, le cinéma dominant est le cinéma hollywoodien. Mmh. Et il nous raconte le monde et il le raconte d'un point de vue très clair, qui est souvent le point de vue du capitalisme également, puisqu'il transporte de l'idéologie, il sert de vecteur commercial également, et on a une image du monde qui est reflétée à travers ces images. Je me rappelle la première fois que j'arrive au Congo, j'ai 8 ans, et je suis persuadé que autour de l'avion, il va y avoir des sauvages avec des lances qui dansent autour de l'avion. Et probablement un Tarzan dans le hall d'arrivée qui va nous saluer. Parce que ma connaissance de l'Afrique, à ce moment-là, était totalement aliénée et réduite à ce que j'avais vu dans le cinéma hollywoodien.
Alors j'aimerais qu'on parle des images et de votre travail sur l'image, de votre façon d'utiliser les images. Dans ces quatre volets de cette série, Exterminer toutes ces brutes, puis ensuite on va en venir à cette histoire de la violence que vous proposez, vous piochez dans les chefs-d'œuvre du cinéma par fragments, dans le dessin, dans le dessin d'illustration, dans les animations, dans les photographies d'archives, dans les coupures de presse, dans les films de famille, y compris les vôtres, mais pas seulement. Il y a aussi des reconstitutions avec des soldats de plomb, il y a des films animaliers, il y a des images de synthèse, il y a des extraits de journaux télévisés, il y a des fictions, il y a des cartes, il y a des infographies. Toutes les images se valent-elles, Raoul Peck ?
Absolument pas. Ce qui est important, c'est le récit qui lit toutes ces images. Mmh. Puisque moi, je me retrouve devant une histoire dominante qui ne tient pas ma réalité, ma propre histoire en compte. Donc, je dois d'abord déconstruire les images existantes. Si je devais simplement me fier à toutes les photos qu'on a prises pendant l'époque coloniale. Des photos qui sont parfois abominables et qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Donc il faut d'abord que je les remette dans un contexte, que je change l'objet, souvent qui n'est pas un sujet mais une victime, en personne réelle. Et parfois il n'y a pas d'image pour relater l'horreur. Quand les récits de Conrad, justement, sur l'Afrique, les récits de Genet sur l'Afrique, etc., ce sont des récits durs. Quand on lit les journaux des anciens explorateurs, des officiers français qui ont participé à la colonisation du Tchad ou ailleurs, ce sont des récits d'atrocités, ce sont des récits de crimes de guerre. Donc, moi, en tant que cinéaste, comment je montre ça ? Je suis obligé parfois de construire mes propres images avec des briques et des brocs récupérées.
Avec une esthétique du patchwork, parce que c'est un art typiquement américain, du collage, de la récupération.
Je vous dirais, en Haïti également, nous faisons de très belles sculptures avec de l'acier récupéré, des pneus de voiture récupérés. Donc oui, moi, je me suis donné cette liberté très tôt dans ma carrière, sinon je ne pourrais pas fabriquer de manière illustrative mes histoires.
Alors je vous pose la question qui fâche, la question qui hante, la question qui secoue quand on regarde ces quatre volets Exterminer toutes ces brutes qui vont être diffusés à la télévision demain soir en France. Peut-on Raoul Peck parler de la déportation de 12 millions d'Africains, c'est l'histoire de l'esclavage dans le monde. Peut-on raconter l'extermination de 6 millions de Juifs, c'est l'histoire de la Shoah. Peut-on parler de la conquête et de l'anéantissement des peuples amérindiens. Peut-on passer de l'un à l'autre?
Absolument, parce qu'il faut rompre cette sectorisation de l'histoire qui est très commode pour beaucoup d'historiens. Il faut le point commun de tous ces drames, de tous ces traumatismes que vous venez d'épeler, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui, dès le XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, qui part à la conquête de Jérusalem. C'est la même Europe où l'Église catholique décide de hiérarchiser les religions, de dire que les juifs, les musulmans, ils doivent soit se convertir, soit partir, ou soit être tués. Et c'est cette même Europe qui part à l'assaut de nouveaux territoires, de nouvelles routes commerciales, et qui se heurte au territoire américain, et qui rencontre 100 millions d'Amérindiens sur ces territoires, et qui les massacre. Et cette Europe qui, comme le sucre, le coton, commence à être l'or de qui permet la richesse de cette Europe, on importe des corps noirs pour cultiver cette canne à sucre, pour cultiver ce coton. Et c'est le même coton qui va créer, permettre aux usines de Manchester, à ce qu'on a appelé très sagement la révolution industrielle, sans savoir sur quel bras, sur quel sang, sur quel génocide cette industrialisation s'est faite.
Donc c'est la suprématie européenne et non pas le suprémacisme blanc.
C'est bien entendu. C'est l'histoire de ensuite. D'ailleurs, c'est la traite des Noirs qui va quelque part figer l'esclavage sur la peau. Avant ça, l'esclavage existait sur beaucoup de continents, y compris en Europe, en Grèce, à Rome, et on n'était pas esclave à cause de la couleur de sa peau. On était esclave parce que la société vous donnait une place avec un certain nombre de critères. Et d'ailleurs, ces critères évoluaient. Mm-hmm. On pouvait être esclave mm-hmm. pendant 100 ans et être dominant une centaine d'années après. Donc, par contre, à partir du moment où l'Église catholique et l'État, parce qu'ils sont ensemble dans leur approche, commencent à figer les choses et à hiérarchiser presque de manière biologique, puisqu'il y a le test de la pureté du sang. Et à ce moment-là, le sang pur, c'est le milieu de l'Europe. Et ensuite, le reste du monde est considéré comme sauvage.
Je vous pose cette question, évidemment, parce que on sait bien que les historiens et les juristes au niveau mondial reconnaissent 3 génocides dans l'histoire de l'humanité récente.
Et pourquoi veut-on les séparer, ces 3 génocides? Alors qu'ils ont été perpétués par la même Europe.
Alors,
est-ce que je
il y a aussi le génocide rwandais. On est bien d'accord.
Absolument. Mais il y a le génocide arménien, il y a le génocide arménien, cambodgien, etc.
Ce sont des blancs qui assassinent des blancs. La Shoah,
oui,
ce sont des blancs qui assassinent
le même
des blancs.
Mélange.
Et les Rwandais, ce sont des Africains qui se massacrent.
Absolument.
Entre eux.
Et dans le film, on analyse aussi la logique du génocide.
Voilà.
Quel que soit le génocide. Mais moi, ce que je fais, je raconte, je déconstruis plus de 700 ans de l'histoire européenne. C'est ça, le sujet. On peut pas discuter de tout en même temps. Déjà, c'est très compliqué de raconter cette histoire. Moi, je raconte l'histoire de 700 ans de conquête européenne, avec les dégâts que cette conquête crée sur l'ensemble de ces continents. Et d'ailleurs, tout ce que j'avance, c'est solide. Je ne me permettrai pas de prétendre analyser cette chose en tant que cinéaste. C'est parce que j'ai des gens solides autour de moi, donc les 3 livres, et puis d'autres livres. Quand un historien comme Carol Kakel écrit un livre qui, justement, explique le parallèle entre le génocide des Amérindiens et la Shoah, il dit clairement, d'ailleurs, tout est documenté du fait que Hitler lui-même va se documenter au sud des États-Unis, pour voir comment les lois ségrégationnistes étaient mises en place. Il s'est inspiré, il l'a répété plusieurs fois, et c'est publié face à ses amis, ses collègues. Il racontait comment se fait-il qu'on n'a jamais rien dit aux Américains pour leur génocide des Amérindiens. Alors pourquoi moi, je me gênerais par rapport aux Juifs d'Europe? Donc je n'invente pas tout ça. Et c'est là que c'est important de voir comment, quand on domine le reste du monde et qu'on écrit soi-même sa propre histoire, bien entendu, on essaie de pas parler de certaines choses qui pourraient questionner cette histoire officielle. Et c'est ça le travail que moi je fais et que d'autres historiens font, et de plus en plus. C'est trouver les bias, comme on dit en anglais, les erreurs, les choses cachées, et c'est le travail fondamental de Michel Rovtrouillot, par exemple.
J'aimerais que vous nous racontiez ce que c'est que la doctrine de la découverte. L'idée qu'il faut être découvert pour rentrer dans l'histoire de l'humanité.
Pas que l'idée qu'il faut être découvert, parce que vu du point de vue des Amérindiens, ils existaient avant.
C'est ça.
Donc, c'est justement, il faut un sacré culot
pour dire à un moment donné, on débarque sur une terre, on plante un drapeau et ça vous appartient. Donc, et cette idée, puisque on peut, alors là, les historiens
putain
pourront se battre
là-dessus. Putain de Christophe Colomb. Mais j'ai avant, rajouté le mot manquant parce voilà. que vous l'avez crippé avec plusieurs astérix.
Absolument, parce que c'est là que prend corps de manière très réelle le fait qu'on pouvait justement, entre guillemets, découvrir. Colomb, il part, d'ailleurs, Colomb signe un contrat commercial avec les monarques. C'est pas un contrat de découverte pour comme un aventurier qui part. Non, c'est un contrat commercial. Et avant ça, les gens circulaient sur tous les continents. Il y avait des guerres, il y avait des invasions, il y avait des reculs. Mais rien n'était figé de cette manière. Quand les Vikings vont jusqu'en Chine, c'est pas pour dire que la Chine leur appartient. Il y a des invasions, il y a des mélanges de populations, il y a des fluctuations. Mais cette Europe qui part à la conquête de nouveaux chemins commerciaux, c'est tout autre chose. C'est une Europe riche qui a l'argent pour financer ses conquêtes et qui tombe par hasard sur des territoires qu'ils ne savaient pas qui existaient, et décident de dire que c'est à eux. Et qu'ils, comme une sorte de cécité soudaine, qui ne se rend pas compte qu'il y a 100 millions de personnes, d'habitants, sur ces territoires.
Le mot de la fin, Raoul Peck.
Oui.
Cette histoire ne peut pas être racontée aujourd'hui sans colère.
La colère, elle est légitime, d'abord. C'est une réaction humaine, ça veut dire qu'on vit, qu'on est vivant. Mais le film lui-même n'est pas fait dans la colère. Il est fait très froidement. C'est pour ça que, avant de m'engager dans un tel projet, je m'appuie sur une documentation sérieuse, sur des auteurs incontournables là-dessus. Et d'ailleurs, j'engage tous ceux qui ont vu le film de voir la liste bibliographique sur laquelle on s'appuie et peut-être essayer d'apprendre quelque chose, d'aller plus loin. Mais mon travail, c'est déjà de vous inciter à considérer,
dans
à questionner
votre travail,
votre propre vie.
Il y a vos tripes, il y a une voix qui tremble, il y a une narration puissante, il y a quelque chose qui vient attraper le spectateur, qui va bien au-delà d'une réflexion universitaire, évidemment, Raoul Peck. Et vous le dites, ceci est un récit, ceci n'est
absolument
pas une contribution. Et c'est la grande différence, elle est là. Elle est là. Entre la contribution historique et le récit, qu'est-ce qu'il y a ?
Absolument. Et vous savez, cet aspect personnel, c'est ça qui fait que peut-être que je peux percer la carapace qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a tellement vu d'images graves, d'images... Vous savez, cette image de ce bébé sur la plage en Grèce. Voilà, il faut des images comme ça pour vous réveiller. Et ça, c'est atroce. Donc moi, j'essaie, par d'autres moyens, de déconditionner ces images, de déconstruire et d'en amener d'autres imaginaires, parfois, comme toute la partie fiction de ce documentaire. Parce qu'il y a une partie fiction qui est importante, parce que c'est par elle que passe certaines émotions qui ne sont pas dissibles.
Merci beaucoup, Raoul Peck.
Merci à vous.
Exterminer toutes ces brutes que vous pouvez voir, les 4 volets sur la plateforme d'Arte, arte.tv et demain soir à la télévision. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers, bon anniversaire Sonia, chère Sonia. Oui, je pouvais pas m'en empêcher.
Pirate.
Aujourd'hui, on s'intéresse à la migraine. Comment lutter efficacement contre la migraine ? 11 millions de Français
vous allez
sont
faire
concernés.
Péter le standard.
11 millions de personnes. Ouais. On va essayer de vous donner des solutions. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24.
Vous allez être très, très écouté, Ali.
7000, j'imagine. À tout à l'heure.